RFJ Info.
Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, il s'en était pris à 6 adolescentes en 2013. Un homme de 22 ans comparé aujourd'hui devant la justice pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Compte rendu d'audience dans un instant. Du courant sort désormais du thermoréseau. La nouvelle centrale de Porrentruy produit de l'électricité depuis le mois de mars, en plus du chauffage à distance. Plus de 2 millions de kWh ont été produits en l'espace de 3 mois. Trois personnes soupçonnées de terrorisme ont été arrêtées dans le canton de Vaud. Le ministère public de la Confédération a confirmé une information de 20 minutes. Il leur reproche des infractions à la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique. L'après-midi s'annonce une nouvelle fois instable sur la région. Quelques averses ou orages sont possibles par endroits. La pluie se généralisera ensuite en soirée et dans la nuit. C'est une affaire très délicate qui occupe aujourd'hui la cour pénale du tribunal de Porrentruy. Un jeune homme de 22 ans comparaît devant les juges. Il est soupçonné d'avoir commis des actes d'ordre sexuel et éventuellement des viols sur 6 jeunes filles âgées de 12 à 15 ans. Des faits qui remontent à 2013 dans le Jura et le Jura bernois. Le jeune homme reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés. Le procureur a requis 24 mois de prison avec sursis durant 5 ans ainsi qu'un suivi psychiatrique. L'audience de ce matin a permis de comprendre la frénésie qui a saisi le prévenu entre février 2013 et février 2014, Jérémy Pignard.
Tout commence sur les réseaux sociaux. Le prévenu, 18 ans au moment des faits, contacte des filles plus jeunes que lui parce que, dit-il, je ne pouvais pas sortir avec des filles de mon âge. Il les charme sur Facebook, puis sur WhatsApp. Tu es chou, tu es superbe. Puis vient le temps du rendez-vous que ces jeunes filles tentent parfois d'éviter. Le plus souvent dans une gare à Porrentruy, de Léman, Moutier ou Péry, le prévenu commet alors divers attouchements sur ces jeunes filles dans les toilettes, une fois à la piscine. Avec l'une d'elles, âgée de 15 ans, il aura un rapport sexuel complet. À la plus jeune, 12 ans, il lui envoie des photos et vidéos de ses parties intimes. Choquée, la fillette en parlera à l'infirmière scolaire, ce qui déclenchera l'affaire. « Je ne savais pas qu'il y avait un âge légal pour ça. Pardonnez-moi d'avoir été ignorant », lâche le prévenu au bord des larmes. Les actes d'ordre sexuel sur des enfants sont avérés et reconnus. La subtilité de l'affaire porte sur l'éventualité d'une contrainte et du viol. Toutes les victimes font part de leur malaise. Certaines n'ont pas osé dire non par crainte. D'autres ont tenté de partir, mais le jeune homme aurait fait obstacle avec son corps. La défense relève l'absence totale de violence physique et de coups. Le jeune homme les pensait consentantes selon ses mots. Le tribunal devra discerner s'il y a eu contrainte physique ou psychique et statuer sur une peine appropriée. Le procureur a requis 24 mois de prison assorti du sursis faute d'institution capable d'accueillir et de soigner le jeune homme. L'avocat de la défense plaide lui pour un traitement ambulatoire afin de soigner les pulsions sexuelles de son client.
Le jugement sera rendu par le tribunal aujourd'hui à 17h. Les appels d'urgence jurassiens arrivent désormais à Fribourg. La bascule des prestations de la centrale jurassienne vers celle de Fribourg s'est faite hier matin de manière optimale selon les autorités cantonales. Cette opération fait suite à la décision du gouvernement jurassien de décembre 2016 et à la modification légale adoptée dernièrement par le Conseil d'État fribourgeois. Thermoréseau alimente désormais les prises électriques. La nouvelle centrale située en Roche-de-Mars à Porrentruy produit depuis 3 mois du courant. L'installation dorénavant totalement fonctionnelle approvisionne environ 2500 ménages. La chaudière qui utilise des copeaux de bois de la région alimente le chauffage à distance pour environ 400 raccordements. Cette énergie permet donc aussi de faire tourner une turbine pour produire des électrons. Le directeur de Thermoréseau, Manuel Godina.
Depuis cette mise en service, en un peu plus de 3 mois, on a produit 2,2 millions de kWh électriques, ce qui est déjà un objectif excellent en soi. 2,2 millions de kWh électriques, c'est plus que ce qu'une éolienne aux Franches-Montagnes produit durant une année. Pour ramener ça sur une année, on se rend compte que les rendements sont excellents. La turbine couplée à la chaudière fonctionne parfaitement bien. Et les objectifs de produire 8 à 9 millions de kWh électriques par année, soit l'équivalent de 2500 ménages, on pourra les tenir assez rapidement.
C'est une très grosse installation, c'est une des plus grosses?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une des plus grosses de Suisse. Alors, naturellement, après, on a des installations qui ne sont pas du tout de ce type-là, beaucoup plus grandes, dans les types usines d'incinération. Mais dans ce type-là, couplé à un chauffage à distance propre ensemble, c'est la plus grande de Suisse romande et c'est la deuxième plus grande de Suisse. Donc, on est vraiment quand même dans une installation atypique et on sait qu'on aura aussi un certain succès sur les visites professionnelles. Les gens intéressés à voir que, oui, le couplage chaleur-force peut fonctionner à partir du bois énergie. Ça fonctionne et dans notre région et en Suisse.
Des propos recueillis par Nancy Chapuis. Des portes ouvertes de la nouvelle installation sont prévues du 6 au 8 octobre. Les écoles seront aussi invitées à découvrir la centrale quelques jours avant. Un sentier didactique sera par ailleurs créé à côté de l'installation pour expliquer les différentes fonctions de la forêt qui permet d'alimenter les deux installations du thermoréseau. Ce mardi 27 juin marque un anniversaire pour le centre de loisirs de Seignelégier. Il y a 30 ans, jour pour jour, l'établissement était inauguré. Les discussions à l'origine de sa création datent toutefois déjà de 1967, lorsque le syndicat d'initiative qui regroupe les communes et autres associations a été créé pour organiser le tourisme dans les Franches-Montagnes. Près de 10 ans plus tard, un comité d'études voyait le jour, puis la construction du centre démarrait en 1984. Aujourd'hui, l'institution abrite une piscine, un hôtel, une patinoire, des salles de conférences et des salles de sport. Pour parler de cet anniversaire, Pierre Christ est avec nous par téléphone. L'ancien maire d'Ébreleu a présidé le comité d'études, puis le conseil d'administration pendant de nombreuses années. Pierre Christ, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi avoir voulu, à l'époque, créer ce centre aux Franches-Montagnes ?
Ah, il y avait eu une demande de la part de différentes sociétés et du syndicat d'initiative des Franches-Montagnes, à l'initiative d'abord du Hockey Club Seignelégier, qui à l'époque réclamait une patinoire. Et suite à cela, ces différents organismes se sont approchés de l'Association des maires des Franches-Montagnes et ainsi est parti le projet.
Et comment se sont passés les débuts, notamment le partenariat avec les communes du district ?
Alors c'était une des parties les plus difficiles parce qu'il s'agissait, étant donné que on avait prévu de créer une société anonyme avec des communes participantes, il s'agissait de faire en sorte que toutes les communes des Franches-Montagnes adhèrent à la société, ce qui n'a pas été une mince affaire.
Il y a eu aussi un autre projet de centre de loisirs en même temps dans les années 80 qui a failli faire capter le projet, c'est juste ?
Oui, c'est ça. Il y a eu un projet au Bouichet. Et évidemment, il aurait pu avoir des effets dévastateurs pour le centre de loisirs des Franches-Montagnes.
Et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, si on revient sur l'histoire de ce centre qui fête aujourd'hui ses 30 ans ?
Ah bien, c'était, d'une part, le bénévolat extraordinaire qui a existé pour trouver des personnes d'accord de s'engager pour un tel projet. Et là, il faut préciser que on a passé 7 ans, depuis 1976 jusqu'en 1983, pour étudier les différentes possibilités, l'implantation, le contenu, le programme, etc., le financement. Et tout cela s'est fait par des personnes de la région et des environs. Et c'était pas une mince affaire. Ensuite, il s'agissait de passer au-dessus, justement, des réticences régionales qui parfois étaient opposées à toute forme de tourisme. Et ce sont les difficultés principales qu'il a fallu surmonter, sans parler évidemment du financement.
Et aujourd'hui, 30 ans après, quel regard vous portez sur son développement au centre de loisirs qui a quand même bien évolué ?
Ah ben je dirais que le centre de loisirs des Franches-Montagnes est une infrastructure qui fonctionne bien, qui a un impact économique important. Je signale au passage qu'une étude qui a été faite par Annie Gourba, une étudiante de l'HEG, a démontré que l'impact économique était de l'ordre de 2,5 millions de francs par année. Donc c'est considérable. Le centre de loisirs a une influence non seulement sur le plan de l'apport sportif et de loisirs, mais aussi sur le côté touristique et culturel, et puis du point de vue économique aussi, puisque les dernières installations qui ont été constituées, notamment des salles pour séminaires, des salles de conférences, etc. Et bien entendu, le développement de l'hébergement avec un hôtel 3 étoiles font que maintenant, on a aussi une clientèle d'hommes d'affaires qui sont très intéressés par le centre de loisirs des Franches-Montagnes.
Alors un mot peut-être enfin sur le futur. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du centre à Seignelégier ?
Alors, je pense que depuis 2005, depuis le moment où M. Vimin, le directeur, a repris le centre, il lui a donné une nouvelle impulsion. Et il y a eu des investissements considérables qui ont été faits dans ces dernières années. Et ceci sans que le budget d'exploitation soit trop déficitaire. Et je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut continuer, c'est-à-dire, comme on l'avait prévu au départ, une très grande diversité qui a l'avantage d'offrir une synergie aussi bien en ce qui concerne concerne l'exploitation du centre que l'offre aux différentes clientèles du centre de loisirs.
Pierre Christ, merci d'avoir été avec nous pour parler de cet anniversaire.
Je vous en prie.
Merci, belle journée.
Bonne journée, au revoir.
Patek Philippe jette son dévolu sur un Jurassien. Marco Bulloni a remporté le concours de la marque horlogère à Genève. L'élève de troisième année de l'école des métiers techniques de Porrentruy s'est illustré en mars à l'occasion du concours de bienfacture et précision. Grâce à sa performance, le jeune homme de 18 ans offre le balancier spirale d'or à son école, un trophée hautement symbolique. Et pour gagner la compétition de Patek Philippe, Marco Bulloni a dû régler une montre. Il nous explique en quoi cela consiste.
Dans une montre, il y a un oscillateur avec un ressort spirale. Et puis, il faut mettre à plat le spirale par rapport à cet oscillateur. Il faut faire un fraisage pour équilibrer le balancier, pour qu'il soit parfaitement équilibré et avoir la même marche dans chaque position de la montre.
Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que vous avez remporté ce concours ?
C'était extrêmement serré entre moi et le deuxième. Moi, j'arrivais déjà pas mal bien quand je faisais ça à l'école. Donc, ça m'a facilité la chose. Puis après, c'est de l'entraînement et du travail, surtout de l'entraînement.
Pour vous, gagner ce concours, ça se résume aussi à gagner une semaine de stage à Patek Philippe à Genève. Qu'est-ce que ça représente ?
Il n'y avait pas qu'une semaine de stage à Genève chez eux, mais aussi une semaine de stage à Londres dans une de leurs filiales.
C'est une opportunité incroyable.
Ouais, vraiment. Surtout que Patek Philippe, c'est un peu notre graal dans l'horlogerie. Du coup, c'est une chance de pouvoir aller y travailler durant deux semaines, surtout dans une filière à Londres.
Des propos recueillis par Leila Hussein. Marco Bulloni commencera lundi prochain son stage dans la manufacture genevoise de Patek Philippe, avant de partir une semaine dans l'établissement londonien de la marque. Le Festival international d'échecs de Bienne fête son 50e anniversaire. Du 22 juillet au 2 août, la ville accueillera plus de 700 participants du monde entier, dont d'anciens champions du monde. Après une année d'absence, le tournoi des grands maîtres fera donc son grand retour. Les détails de la manifestation ont été présentés ce matin. Pour le président du comité d'organisation, Peter Bonnebloust, il était important d'accorder l'importance nécessaire à l'événement.
C'est pas seulement pour moi, c'est pour la ville de Bienne, pour toute la région, pour les joueurs d'échecs. C'est un grand moment qu'on peut faire l'événement pour 5e fois. Et on est plus anciens de l'Europe. Et c'est aussi là où on est aussi fiers.
On est à la 50e édition, mais après la 30e édition déjà, la manifestation a été en péril.
Oui, c'est surtout toujours une question de l'argent. Là, il y a 30 ans, c'est le sponsor qui a arrêté. Mais sans argent, on n'arrive pas à faire un tournoi de cette grandeur.
Et aujourd'hui, la recherche de fonds, de sponsoring, comment se passe-t-elle ? Ça fait 20 ans que vous êtes au sein du comité. Quelle évolution vous avez pu observer ?
Oui, d'une part, c'est vraiment très, très difficile de trouver des sponsors pour l'échec, parce que c'est pas si facile. D'autre part, on est en grand soutien des privés, des petits montants, et là, on fait aussi beaucoup d'argent.
Des propos recueillis par Anastasia Lirti. Nouveauté cette année, une première mondiale est prévue dans le cadre de la retransmission en direct des parties. Il sera possible de visualiser les ondes des cerveaux des joueurs pendant les parties. Une collaboration a été mise en place avec une jeune entreprise bio-informatique américaine. Trois personnes sont en prison en Suisse, soupçonnées de terrorisme. C'est le journal 20 minutes qui révèle l'affaire ce matin en rapportant l'arrestation d'un couple samedi à Aubonne dans le canton de Vaud. Le ministère public de la Confédération a confirmé que les prévenus se trouvent en détention provisoire, précisant que trois personnes ont été interpellées entre vendredi et samedi. Mais on n'en sait toutefois pas beaucoup plus à l'heure actuelle. Jérôme Favre.
L'opération a été menée par les autorités vaudoises avec le soutien de la police fédérale et avec l'étroite collaboration du ministère public de la Confédération, lequel a repris le dossier puisque les délits poursuivis sont soumis à la juridiction fédérale. Interrogé, le ministère public explique dans une prise de position reprocher aux trois individus d'avoir contrevenu à la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et à l'article du code pénal portant sur les organisations criminelles. Si l'on regarde les textes, cela signifie qu'ils pourraient s'être associés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, ou avoir aidé ou encouragé leurs activités en Suisse ou à l'étranger, avec pour objectif de commettre des actes de violence criminelle. Dans les deux cas, la peine encourue peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Si le procureur général du canton de Vaud a précisé sur les ondes de la RTS que les personnes arrêtées avaient les moyens de passer à l'acte relativement rapidement, les autorités fédérales ne commentent pas et rappellent que les suspects bénéficient de la présomption d'innocence.
Une amende salée pour Google. Le géant Internet va devoir payer 2,6 milliards de francs pour avoir abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne. La Commission européenne a estimé que Google avait favorisé son comparateur de prix. Une action illégale au regard des règles de concurrence de l'UE.
RFJ, il est 12h30.
Le sport avec la Loterie Romande.
Le BC Boncourt fait table rase. Le club de basketball Ajoulo a présenté ce matin ses objectifs à la presse pour la prochaine saison de Ligue A. Il tentera ainsi de se qualifier pour les playoffs avec un effectif entièrement remanié. 4 joueurs suisses ont déjà été recrutés. Il s'agit de Jurac Kozic qui jouait à Genève et d'Amir Savonnet en provenance de Winterthur pour les plus expérimentés. Marc Seylan qui a suivi un cursus universitaire aux États-Unis et Marlon Kessler qui a fait sa formation à l'ASVEL en France vivront eux leur première expérience professionnelle dans le chaudron. Le nouveau coach du BCB, Romain Gaspar.
On a décidé de faire une équipe, rajeunir un petit peu le groupe. On a mis un petit peu au centre des objectifs le fait de trouver des joueurs qui mettaient le basket vraiment au centre de leurs priorités, qui avaient vraiment envie de mettre un gros volume d'entraînement l'année prochaine, puisqu'on va essayer d'être vraiment axé sur le travail. Je pense que ce qui peut nous permettre de limiter un peu l'écart qu'il y a entre nous et les grosses écuries du championnat, c'est peut-être de travailler encore un petit peu plus dur. Donc on a vraiment voulu trouver des joueurs qui étaient dans ce projet travail et qui avaient beaucoup de temps à donner au basket.
Vous faites table rase au niveau du recrutement suisse pour les étrangers. Comment ça va se passer ?
Table rase au niveau des joueurs suisses, c'est pas vraiment un choix, comme je l'ai dit. Beaucoup de joueurs suisses qui mettent quand même un petit peu le basket à côté des études, donc c'est pas évident de les garder à bon cours. C'est le cas de tous les joueurs qui étaient là l'année passée. Ils ont soit repris des études, soit pour des raisons privées d'essayer de partir. Et puis, pour les étrangers, on va essayer de chercher des joueurs qui sont simplement très complémentaires des joueurs qu'on a pu signer. Donc d'éviter d'avoir des étrangers qui marchent sur les plates-bandes de nos joueurs suisses pour vraiment leur permettre de s'épanouir et d'avoir des responsabilités sur le terrain. Ce sera a priori plutôt un meneur de jeu, un poste 4 et un poste 5, donc plutôt des joueurs profilés sur le secteur intérieur.
Romain Gaspar au micro d'Émilie Moumentaler. Le BC Boncourt recherche encore un intérieur suisse et 3 étrangers. Il intégrera aussi des jeunes de son centre de formation. Les Jurassiens reprendront l'entraînement le 21 août, tandis que la saison de Ligue A débutera le dernier week-end de septembre. Belinda Bencic et Roger Federer feront à nouveau équipe. Comme cette année, les deux Suisses disputeront la Hopman Cup de tennis au début de l'an prochain. La Saint-Galloise et le Balois entameront leur saison à Perth en Australie avant cette épreuve par équipe.
Merci Alex. Dans un instant, le conseil Raiffeisen. Et c'est un temps ensoleillé avec quelques averses et orages qui pourront se réactiver cet après-midi dans les franches montagnes. Voilà ce que prévoit Météo News pour la suite. Et à partir de ce soir et cette nuit, les averses et orages vont se généraliser tout en étant localement forts. Au niveau des températures, ce sera des maxima de 24 degrés à Seignelay-Gier, 28 à Porrentruy et 29 à Delémont et Moutier. Demain, il y aura de rares éclaircies, sinon ce sera très nuageux avec de fréquentes averses orageuses justement. Les températures seront en baisse mais resteront presque de saison, à savoir entre 14 et 17 degrés à l'aube, puis au mieux 18 aux Franches-Montagnes et 23 en plaine.